faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
L'art et la matière, une émission de Jean Deloisy. Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Dans quelques jours, ouvre au musée Condé de Chantilly l'exposition « Le massacre des innocents Poussin » Picasso, Bacon. Cette exposition raconte, montre l'histoire de ce tableau qui a créé une turbulence extraordinaire dans l'histoire de l'art puisqu'il a été regardé, observé, repeint et développé par d'autres artistes. Et c'est dans le sillage de cette turbulence que nous allons bavarder ensemble autour de son histoire. Mais l'effet de cette œuvre ne tient pas seulement à la bouleversante humanité du tableau, elle est due aussi à son intemporalité, à l'universalité de son sujet et également à son lien avec l'actualité la plus brûlante. Pour en parler, je reçois Pierre Rosenberg, président directeur honoraire du Musée du Louvre, académicien, historien de la peinture française et italienne et du dessin français, qui considère que Poussin est un des plus grands artistes de l'histoire de la peinture en France.
Le plus grand peintre français.
Le plus grand peintre français. Et vous êtes accompagné dans notre conversation par Laurent Lebon, conservateur général du patrimoine et président du musée Picasso, et Philippe Dagen, essayiste, romancier, professeur d'histoire de l'art à Paris 1 et critique d'art au journal Le Monde, et qui, pour une fois, n'a pas de livre à nous présenter pour cette rentrée.
C'est juste.
Et par contre, vous avez, comme moi, un grand intérêt pour cette exposition qui va mettre en majesté, si je puis dire, ce tableau insigne qui ne circule pas. Vous allez peut-être nous dire, Pierre Rosenberg, pourquoi ce tableau ne circule pas.
Tout simplement parce que le musée Condé à Chantilly n'a pas le droit de prêter. Tout bêtement. Ça nous a d'ailleurs compliqué les choses pour l'exposition, parce qu'évidemment, comme vous le savez, par les temps qui courent, les prêteurs aiment bien recevoir un tableau en échange. Et comme le musée Condé ne peut pas prêter, il a fallu faire appel au Louvre. Parce que
vous aviez une petite influence sur le Louvre, malgré tout.
Modeste. En tout cas, si vous voulez, le tableau le plus important, en un certain sens, en contrepoint du tableau de Poussin, c'est le massacre d'innocents de Guido Reni, un tableau célèbre qui n'est venu en France, qui n'a quitté l'Italie que sous Napoléon. Et le prêt de ce tableau, n'a été possible que grâce à la générosité du Louvre, qui a prêté à Bologne un des chefs-d'œuvre de Guido Reni du Louvre, le Nésus et des Janires. Mais sans le Louvre, nous n'aurions pas eu ce tableau, qui à mon avis est essentiel à tous les points de vue, notamment parce que c'est grâce au tableau de Poussin, si j'ose dire, que Poussin a pu montrer que Guido Reni, il l'écrasait un petit peu et qu'il pouvait prendre sa place.
C'était probablement le but de Poussin, c'était de faire la démonstration de son
talent.
Alors, si je ne me trompe, qu'il venait d'arriver à Rome.
Il venait d'arriver à Rome, absolument. Giustiniani, en plus, le commanditaire du tableau, est plus connu pour ses amours pour Caravage que pour Poussin. Mais nous savons maintenant pourquoi Giustiniani a commandé le tableau à Poussin.
Alors, vous allez nous raconter cela, mais peut-être avant dire que le massacre des innocents de Poussin a été peint par cet artiste immense, alors qu'il avait environ 35 ans,
oui,
on peut dire ça,
oui,
à peu près.
Un peu moins, oui.
Un peu moins?
Oui.
Oui, parce qu'il y a un grand débat sur la date, hein, entre les historiens. Est-ce que c'est 1724? Est-ce que c'est
26,
1700?
Oui, il y a eu des querelles. C'est un des tableaux où la chronologie a été le plus disputée entre les historiens d'art. Ça va entre 26 et 32. Moi, je suis un 26iste.
C'est pas très facile à prononcer.
Non.
Néanmoins, cher Pierre Rosenberg, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur la façon, avant que nous, et ensuite nous allons le décrire, sur la façon dont ce tableau a été commandé? Par qui, pourquoi et dans quel contexte?
D'abord, il faut savoir que le tableau il faut le voir d'en bas. Et je conseille à tous ceux qui viendront à Chantilly, j'espère qu'ils seront nombreux, de se mettre à genoux devant le tableau.
Oui, parce qu'il a été découvert.
Il a été peint assez haut. Et il faut le comprendre comme un tableau placé assez haut. Alors pourquoi est-ce que Poussin a peint ce tableau, du moins en a reçu la commande? Ça, c'est un peu nouveau. Le commanditaire, grand personnage de Rome, génois très riche, Vincenzo Giustiniani, le marquis, était né à l'île de Chio, en Grèce. Et puis, en 1564, 2 ans plus tard, l'île de Chio est occupée par les Turcs. Et les Turcs, curieusement, veulent convertir tous les habitants de l'île, y compris les nombreux Giustiniani qui l'habitaient. Et pour les convertir, ils leur mettent, surtout aux enfants, des petites épingles brûlantes sous les ongles, ce qui les oblige à lever les mains, et du coup, ils sont convertis. Mais ça n'a pas suffi, et on les a aussi décapités. Je parle des enfants Giustiniani de l'île. Et par conséquent, ce tableau est un tableau d'actualité. Quand Giustiniani le commande, c'est un peu pour rappeler ces enfants Giustiniani, qui ont tué par les Turcs, enfin, je ne dis pas que l'autre côté, les gens étaient plus tendres, tués par les Turcs. Et donc, c'était un tableau d'actualité.
Ce que vous voulez dire, c'est que ce tableau est d'actualité quand il est peint en 1626.
Voilà.
Et qu'il est toujours d'actualité. Et c'est pour ça que vous avez décidé de faire cette exposition en collaboration avec le fameux conservateur Laurent Lebon. Vous avez essayé d'en tirer l'essence pour l'aujourd'hui. Alors, j'aimerais que Laurent nous dise comment vous avez décidé de travailler ensemble et où vous vouliez amener le sillage de ce tableau insigne.
Pour travailler sur un tel sujet, il n'y a pas de décision de travailler ensemble. Il y a écouter Pierre. On le sent déjà depuis ses premières secondes, ses premières minutes. C'est un immense récit. Nous buvons ses paroles, et pas en tant qu'académicien, ça y est, c'est difficile, mais je crois surtout, comme il l'a rappelé, en tant vraiment qu'amateur de peinture. Et donc, le sillage était tracé, il suffisait de le suivre. Et je crois que ce qu'on a souhaité faire, c'est casser un petit peu cette distinction entre exposition temporaire et collection permanente, qui est la matrice des musées, qui est un débat que Philippe et Pierre aiment bien, parce que je crois qu'aujourd'hui, on délaisse souvent les collections pour l'événementiel. Ben là, je crois qu'à Chantilly, on le redira peut-être tout à l'heure, il y en a pour tous les goûts. Car en fait, c'est une exposition triptyque. Il y a les dessins de Poussin, il y a dans la galerie du duc d'Aumale, dont l'accrochage a été préservé, parce que non seulement on ne peut pas prêter, mais l'accrochage a été préservé, ce qui est extraordinaire. Vincent Corpet a accroché son œuvre en hommage au tableau de Poussin. Et puis, il y a l'exposition dont on parle, qui est finalement chronologique, hein, mais avec quelques contrepoints et une très belle galerie qui permet de révéler le contenu, l'histoire de ce tableau. Et donc, on a cherché évidemment quel type d'œuvre. Et on entendra tout à l'heure sans doute Philippe nous commenter ce chef-d'œuvre extraordinaire. On a eu la chance d'avoir le prêt du MoMA de New York, du Charnier de Picasso, daté de 1945, qui n'est évidemment pas une analogie littérale du massacre, qui est dans un autre rapport, mais qui est absolument magique, en tout cas parce qu'on a eu la chance d'achever l'accrochage et de pouvoir découvrir cette exposition, vraiment d'être plongé dans ce moment d'histoire. Et là encore, c'est une réaction à la contemporanéité, même si les picassiens, dont Philippe fait partie, ont là aussi tout un grand débat entre celles et ceux qui pensent qu'il a été influencé par les photographies des camps de concentration de l'époque, ou au contraire que c'était un tableau qui a une lente maturation, comme souvent chez Picasso, et qu'au fond, c'est un petit peu le contrepoint de Guernica, 8 ans plus tard.
Alors, le tableau fondateur de Poussin, Picasso et Bacon également.
Bacon de 1948, c'est-à-dire pas un Bacon qu'on pourrait croire des années 50 ou 60, c'est la tête. Alors, il y a une série de têtes, mais là, évidemment, c'est le cri, une figure mi-animale, mi-humaine, la deuxième, puisqu'il les a numérotées. Et là, on a vraiment un chef-d'œuvre incroyable, hein, c'est avec ce rideau un peu carcéral derrière cette forme hybride. C'était magique de réunir ces deux tableaux en écho et en contrepoint du massacre des innocents. Je crois qu'aujourd'hui, quand on crée une exposition, on cherche évidemment à raconter une histoire, mais je crois qu'il y a vraiment un souhait du visiteur d'avoir quelque chose qui l'amène vers un ailleurs, qui est, je crois, dans cette exposition tout à fait comme un précipité chimique, puisque on va d'Italie à New York, on va de l'art contemporain à pratiquement l'Antiquité, puisqu'on raconte aussi les sources du tableau. Et je crois qu'au fond, c'est une belle leçon d'histoire de l'art que Pierre nous raconte.
Philippe d'Agen, cette histoire, cette leçon d'histoire de l'art, mais aussi, c'est pas seulement une leçon, je pense, c'est une sensibilité sur une histoire de l'art qui nous parlerait aujourd'hui. C'est une histoire de l'art qui semble être vue depuis le balcon de l'aujourd'hui. Est-ce que vous le ressentez comme ça?
Je pense que toute œuvre d'art, à quelque époque ou à quelque civilisation qu'elle appartienne, est toujours vue du balcon où nous nous trouvons et qui est celui de notre histoire et de notre géographie. Poussin ou Picasso ne font pas exception. Je pense que dans le cas du massacre des innocents, je ne veux pas prendre le moins du monde parti dans l'histoire des Picassiens que vous avez évoqué, parce qu'il me semble que il serait plus juste de penser que au fond, peu importe de savoir si il y avait ceci ou il y avait cela. Moi, je dirais qu'il y avait ceci et cela. Et que c'est évidemment la rencontre aussi bien des photos des camps que de la guerre d'Espagne, que de la mémoire de Poussin, qu'en effet, naturellement, Picasso connaissait, comme il connaissait tout le reste, et de bien d'autres œuvres qui, à un certain moment, se cristallisent dans un tableau qu'on appelle le charnier. Il n'y a pas... Je crois qu'il n'y a pas lieu, non seulement il n'y a pas lieu de choisir entre des sources, mais il me semble plus utile d'affirmer que elles échappent à l'ancrage historique dont elles sont issues et qu'elles sont susceptibles de se rejoindre. Et de ce point de vue-là, une exposition comme celle-là que soit dit en passant, je n'ai pas encore vue, puisqu'elle n'est pas encore ouverte, me paraît une leçon d'histoire de l'art, précisément pour montrer comment les formes et les idées s'agrègent entre elles dans le temps et dans l'espace.
Est-ce que vous pensez que c'est une exposition qui dépasse la question de l'histoire de l'art et qui parle de notre histoire présente aujourd'hui? Est-ce que c'est une exposition qui a un lien avec les événements de l'aujourd'hui?
Mais cher Jean, rien ne dépasse l'histoire de l'art. l'histoire de l'art est la science et le savoir suprême dans lequel tous les autres sont évidemment contenus. Bien sûr que c'est une exposition qui a une
résonance, en tout cas.
Une prégnance particulière par rapport à l'époque. Je crois d'ailleurs que c'est l'une des raisons
et
pour lesquelles...
Et aux images qu'on ne cesse de voir.
Oui, ben voilà. Enfin, je crois que...
Il y a une Pierre petite Rosenberg. Raison supplémentaire.
Oui, voilà, je vous laisse le soin de le dire.
Non. En fait, Poussin est un immense artiste, tout le monde est d'accord, mais c'est un peintre très, très difficile. Et de montrer que les artistes contemporains, Picasso et les artistes qui ont été
Adami,
cités.
Adami, Alberola et quelques autres, Pierre Corpet, Vincent Corpet.
Se passionne pour Poussin et peut-être une manière de faire entrer le public dans ce peintre si difficile. Et c'était un petit peu l'idée de départ.
Que c'est une des œuvres les plus lisibles de Poussin, c'est-à-dire avec le sens est plus immédiat que dans d'autres.
Bien sûr, c'est exactement aussi... Oui, c'est un tableau simple par rapport aux autres. L'iconographie n'y joue pas, l'érudition de Poussin n'y est pas évidente. Elle n'est pas là. C'est un tableau facile d'abord et le sujet tout de suite parle. Mais le fait que Poussin soit si difficile et que par ailleurs tous les artistes, pas simplement les contemporains, mais aussi ceux du 18e, du 19e, se soient passionnés pour Poussin, est une manière de dire au public, prenez votre temps pour regarder les tableaux, pour le découvrir, ce peintre, étant entendu que l'on sait très bien que quand on est tombé dans la marmite poussinienne, on n'en sort pas.
Laurent Lebon, vous vouliez intervenir ?
Oui, comme un passeur, il nous faut des regardeurs, un terme qui vous est cher Jean. Et évidemment, Philippe nous a aidé beaucoup par son texte fondateur qu'il a écrit comme une réaction à cette photo qui nous a tous fait sursauter de tragédie, cet enfant mort sur cette plage turque. Et Philippe, dans ce brillant article du Monde, avait tissé ses liens. Et l'exposition est un écho, un contrepoint. Et on s'est d'ailleurs permis d'exposer la presse, la photo justement des massacres, souvent titré « Le massacre des innocents », en petite coda de cette exposition.
Alors je vous propose, pour que nous sachions exactement de quoi nous parlons, d'écouter une description faite et écrite par Pierre Rosenberg de ce tableau.
L'épée lacère un ciel bleu pommelé. L'homme, dans la force de l'âge, le visage tendu par l'effort, un manteau rouge jeté sur l'épaule, s'apprête à frapper une seconde fois. Il a lourdement posé son pied droit sur le corps d'un bébé encore en vie, nu, aux bras largement ouverts. Couché au sol sur son linge, l'enfant ferme les yeux et crie. Un jet de sang garance jaillit de son flanc. Une femme à genoux, vêtue d'une robe safran, tente de retenir le geste du soldat. De sa main droite, elle lui griffe le dos. Son bras gauche, en forme de balancier, veut arrêter l'épée. La brute la repousse sans ménagement et tire en arrière ses longs cheveux. La bouche, grande ouverte, elle lève les yeux vers le bourreau. Elle lève les yeux au ciel. Elle supplie. Elle implore. Elle hurle. Son cri est intolérable, insoutenable. L'on continue longtemps à l'entendre. Entre les jambes musclées du soldat, en contrebas, comme dans l'encadrement d'une fenêtre, deux femmes vues à mi-corps s'éloignent. L'une, un enfant dans les bras, se tourne vers nous et nous regarde. L'autre, coiffée de blanc, semble pleurer. Sur la droite, de bleu vêtue, une femme s'écarte de la scène, s'en échappe, s'enfuit. De son bras droit replié, elle s'arrache les cheveux. Elle tient sous son bras gauche son enfant mort, le crâne ensanglanté. La bouche largement ouverte, les yeux clos, dans un geste de désespoir, elle en appelle au ciel. À sa droite, au loin, une mère vue de dos son enfant bien vivant dans les bras, la tête reposant sur son épaule, nous tourne le dos. C'est le massacre des innocents.
Vous êtes sur France Culture, vous écoutez l'émission L'Art et la Matière, et nous examinons ensemble un tableau de Poussin, Le Massacre des Innocents. J'ai la chance d'être avec Pierre Rosimbert, Laurent Lebon et Philippe Dagen pour en parler. Pierre Rosimbert, ce tableau si impressionnant a surpris par le faible nombre de personnages par rapport à ce que l'on pouvait voir chez Guido Reni, Titien à l'époque. 4 personnages pour exprimer un massacre de centaines d'enfants. Qu'est-ce que ça veut dire?
Tout simplement qu'il a voulu prendre le contre-pied de tous les massacres des innocents d'avant, où il y avait Hérode, bien sûr, plein de soldats dans des costumes plus ou moins variés, plein de sang, plein d'épées ensanglantées. Et puis il y avait évidemment ce tableau de Guido Reni où il y avait moins de personnages. Et il a voulu prendre le contre-pied et dire que c'était pas le massacre des innocents qu'il voulait peindre, mais le massacre de l'innocent tout court. Et il a gommé la Bible complètement, puisque on s'attendrait à ce qu'il y ait des anges comme sur le tableau de Guido Reni. Il a gommé la Bible. Il a voulu simplement résumer l'histoire une fois pour toutes, faire un tableau comme vous l'avez dit tout à l'heure intemporel.
Et vous savez, on a vu récemment au musée du Louvre une exposition. Poussin et Dieu, une exposition dans laquelle la complexité théologique des tableaux était parfaitement exprimée.
Oui.
Et dans ce tableau, c'est un tableau d'une laïcité absolue.
Oui, mais ça donnera raison à ceux... Vous savez, la querelle est connue entre Poussin croyant ou Poussin athée. Elle avait opposé dans son temps Tuillier et Fumaroli. Chacun d'ailleurs défendant avec Poussin ses propres opinions religieuses. C'est ça qui était amusant en un certain sens. C'est que le croyant défendait le Poussin croyant et que l'athée défendait le Poussin athée. Le Poussin lui-même n'a jamais voulu s'exprimer sur ce point. Poussin s'est toujours caché. C'est un homme qui n'a jamais voulu qu'on parle de lui. Et par conséquent, les sentiments religieux de Poussin, à mon avis, nous ne les connaissons pas. Ce qui, par contre, me paraît sûr, c'est qu'il a voulu mettre... Il traite de la même manière les tableaux mythologiques et les tableaux bibliques. En fait, pour lui, ce qui compte, c'est la peinture. Et ses sentiments personnels, je les ignore, mais ses sentiments vis-à-vis de la peinture, je les connais. C'est-à-dire de montrer que la peinture est un art complet et qui peut raconter des histoires tout en le faisant avec ses pinceaux.
Philippe Dagen, lorsque vous entendez cela, si je me représente bien le tableau à l'endroit que décrit Pierre Rosimbert, c'est-à-dire au-dessus d'une porte, en quelque sorte, hein, donc à 2,30 m pour la partie basse, en tout cas, et
que je crois me souvenir que ce tableau a deux contrebas, c'est-à-dire que lorsque l'on l'observe, il y a un tombant derrière les personnages principaux et là un visage qui regarde la scène et nous-mêmes comme tombant également, comme de l'autre côté d'un tombant, on est de... Est-ce que vous pensez que c'est pas d'abord une architecture et cette architecture nous met dans une position d'infériorité par rapport à ce pied qui écrase cet enfant? Est-ce que vous pensez qu'il y a une...
Si c'était une position d'infériorité, comme vous dites, ce serait une position d'infériorité simplement spatiale, déjà, pour éviter tout équivoque. Nous serions en effet placés, métaphoriquement, en dessous du pied du soldat, c'est-à-dire que nous sommes dans la position de l'enfant.
De la victime.
On est dans la position de la victime. Quand vous parlez d'architecture, oui, elle est évidemment très présente. Vous accentuez peut-être un peu ce qui n'était pas si présent dans la description de Pierre Rosenberg que l'on vient d'entendre, le côté, si j'ose dire, théâtralité du tableau qui descendu. Moi, je ne l'ai vu que descendre, enfin, qu'à la hauteur du musée de Chantilly, est moins flagrant. Alors, peut-être, en effet, dans un autre dispositif, était-ce plus remarquable. Mais, quand vous dites tous les deux qu'il s'agit de donner une forme à la fois intemporelle et universelle, et que c'est pas le massacre des innocents, quoi, vous avez pleinement raison, mais c'est le massacre de l'innocent ou d'un innocent, c'est une manière de concentrer l'événement sur un nombre extrêmement réduit de figures, sur un geste qui est très clair, dans un espace qui est assez... Enfin, non pas indifférent, mais neutre. Il n'y a pas de grand pittoresque archéologique dans le tableau de Poussin. Pour faire un anachronisme, et puis il faut bien qu'à un moment ou un autre j'en commette un, je dirais que c'est un tableau qui est incroyablement cinématographique. C'est-à-dire que quand on voit ce tableau, les gestes qui précèdent et les gestes qui vont suivre sont absolument contenus en germe, en puissance, dans la composition, et ça va fatalement advenir. Il n'y a aucune idée d'espoir. Il n'y a aucun sauvetage possible. Le pire est en train de s'accomplir. Et quand Laurent Lebon parlait de Bacon et de la tête, l'une des autres images dont Bacon a souvent dit qu'il l'avait beaucoup regardé pour peindre ses têtes, c'est Eisenstein. Ce sont les photogrammes du cuirassé Potemkin et de cette femme qui hurle. Alors, je ne veux pas faire un rapprochement un peu hâtif entre Eisenstein et Poussin sous le signe du cinéma, mais en fait, c'est eux qui l'ont fait.
J'ai l'impression que c'est un des sujets de l'exposition, ce cri. Qu'en pensez-vous, Laurent Lebon ?
Mais Philippe est d'une perspicacité redoutable. J'ai des problèmes avec les...
Vous avez une épée d'académicien sur la langue, peut-être.
C'est ça, voilà. Et il y a même une réalité géographique, c'est que Bacon est allé à Chantilly. En 1927, il a vécu un petit peu, comme d'ailleurs Picasso, au moment du cubisme, a eu un été pas très loin de Chantilly. Donc très probablement, les deux ont une chance, une possibilité de voir le tableau.
Bacon, c'est sûr.
Et Bacon...
C'est ça aussi, je n'en doute pas.
Et mais... Bacon a écrit cette magnifique comparaison que vient de nous faire Philippe par rapport au cuirassé. Et je crois qu'effectivement, ce cri... Je crois que c'est Pierre qui dit que c'est le plus beau cri de l'histoire de la peinture. Je crois qu'il est là.
Vous voulez dire que Eisenstein, c'est le plus beau cri de l'histoire de la peinture ?
Non, Poussin. malheureusement. Voilà, parce que je crois
Ceci dit, la tête qui hurle, qui est extraordinaire, qui n'est pas du tout physionomique, ça ne ressemble à rien de personne, etc. Je n'ai pas trouvé la source iconographique. Elle vient certainement du monde antique. J'ai pourtant cherché, j'ai consulté des gens bien plus compétents que moi sur ces questions. Je n'ai pas trouvé le masque grec dont Poussin a eu connaissance pour peindre ce visage.
Vous ne pouvez pas éviter l'hypothèse que Poussin a juste, dans une rue de Rome, vu une mère hurler et que c'est ça qui est venu dans le tableau sans avoir nécessairement besoin d'avoir une source
Je sais pas.
Antique. Vous aimez l'idée qu'il y aurait une source.
Mais j'espère qu'un auditeur va.
Ce serait peut-être mieux qu'il n'y en ait pas.
Un historien comme Pierre est un limier. Oui, c'est un Sherlock Holmes. Il va chercher l'indice.
Poussin n'en a peut-être pas besoin. Peut-être Poussin, me semble-t-il, est largement capable de trouver cette forme à partir de ce qu'il voit.
J'espère. Ce serait merveilleux.
Puis ça réglerait votre problème.
Et alors, Laurent Lebon, vous parlez tout à l'heure du charnier de Picasso par rapport. Et là, nous parlons de ce cri. Dans le cri, il y a quelque chose. Il y en a un qui est célèbre, c'est Guernica. Pourquoi pas le cri de Guernica ?
Dans l'exposition. Parce qu'il fallait faire
une esquisse, peut-être.
Non, mais on sait jamais comment définir le métier de commissaire. Ce terrible mot français, qui va pas très bien d'ailleurs avec le massacre des innocents. Mais voilà, il faut faire des choix. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a aussi une tendance qui est bien reflétée dans ce propos à Chantilly, c'est peu mais bien. Je crois qu'on a cherché une exposition ramassée. Je ne sais pas si c'est réussi, on attend bien sûr le verdict des visiteurs avec impatience, mais ce qu'on a voulu, c'est pas une démonstration exhaustive, c'est pas une rétrospective, c'est plus une des moments de contrepoint, une petite phrase musicale avec vraiment un point fort qui est une présence contemporaine, et je vais choquer les auditrices et les auditeurs françaises. C'est-à-dire, voilà, on a montré des peintres, désolé.
Philippe Bergeron, vous êtes choqué.
Et on a même montré...
Non, c'est pas vrai en plus ce qu'il dit, puisqu'il y a Marcus Lupert dans l'exposition,
avec un très beau tableau.
Cher Philippe, je n'avais pas dit qu'on a montré que des peintres.
Parmi les peintres français, il y a donc Francis Bacon, que vous montrez, grand exemple de peinture en France,
oui, parce qu'il a vécu à Paris, voilà. Bien sûr. Il y a Jean-Michel Alberola, il y a Jérôme Zonder, il y a Pierre Buraglio, il y a un très beau mur, et rendons-lui un hommage à travers cette émission de Henri Cuicot, qui a écrit un très très beau texte sur le massacre.
Vous oubliez Annette Messager.
Il y a Annette Messager. Non, j'y viens. Parce qu'Annette ouvre l'exposition.
Oui. Et elle a mis un haut rouge au milieu de sa phrase.
Elle dit que c'est la bouche.
C'est la bouche, c'est le cri. Je voudrais qu'avant que nous poursuivions, puisque nous avons tourné autour de cette bouche d'ombre au cœur du tableau, eh bien que nous entendions ce que dit Bacon de tout cela.
Je devais avoir à peine 20 ans. J'habitais près de Chantilly, chez une famille où j'apprenais le français. Et je décorais des appartements. Quelle horreur tout ça. Il y avait le musée de Condé, où j'avais vu une peinture admirable de Nicolas Poussin. Le massacre des innocents. Je suis resté sous le choc. Le plus beau cri de toute la peinture. J'adore les compositions de Poussin. Et ses bleus et ses jaunes, magnifiques. Son cri m'a fait réfléchir. Le déclic de l'envie de peindre, c'est un peu plus tard avec Picasso. À ce moment-là, je me suis dit, je vais essayer moi aussi de faire ça. C'était la période de Dinard. J'ai connu à ce moment un sentiment étrange. Et c'est encore aujourd'hui pour moi une source de sensations. Plus tard, à Londres, j'ai eu un autre déclic. Devant l'étal du rayon boucherie, au magasin Harrods. On ne sait pas pourquoi certaines choses vous touchent. C'est vrai, j'adore les rouges, les bleus, les jaunes, le gras de la viande. Nous sommes de la viande, n'est-ce pas? Quand je vais chez le boucher, je trouve toujours surprenant de ne pas être là, à la place des morceaux de viande. Et puis, il y a un verre d'échille qui hante mon esprit. L'odeur du sang humain ne me quitte pas des yeux. The reek of human blood smiles out at me. Soit. L'odeur du sang humain me sourit. Francis Bacon. Mm-hmm.
Pierre Rosimbert, puisque vous êtes avec nous sur cette émission L'Art et la Matière, où nous parlons d'un tableau que vous aimez par-dessus beaucoup d'autres, je pense, Le Massacre des Innocents. Est-ce que vous diriez que dans ce tableau, dans lequel le divin n'apparaît pas comme une évidence, en tout cas, est presque absent, même si c'est une scène religieuse dans son histoire, est-ce que vous diriez que quand le divin s'absente, la seule chose qui nous permette ou qui permette à l'artiste de charger le tableau, c'est l'humain dans son expression la plus tragique?
Oui, on peut dire ça. Chez Poussin, c'est l'humain, mais avec une grande culture. Une des conquête récente de l'histoire de l'art, elle n'est pas si récente que ça, mais elle est très importante à mes yeux, c'est la découverte de Poussin, grand lecteur de Montaigne. Il a été un lecteur, on le sait maintenant très pertinemment, de Montaigne, et au fond, je crois que cette lecture de Montaigne, même s'il faut pousser trop loin ce genre de comparaison, ce lecteur de Montaigne, c'est le peintre, et dans sa vie personnelle d'ailleurs, un petit peu, pour autant qu'on la connaisse, mais surtout dans son œuvre.
Donc un peintre plus humaniste que théologien.
Un peintre plus humaniste que théologien, un peintre intellectuel naturellement, ce qui le rend difficile, mais un peintre pour qui en effet la portée morale d'une œuvre compte. Morale, je dis pas religieuse justement, morale. Morale. Mais vous avez cité le magnifique titre des textes de Bacon, qui est magnifique, mais le lecteur, le visiteur de l'exposition du musée Condé à Chantilly, pourra se distraire à lire naturellement, reproduit sur le mur, et à partir non pas du texte imprimé, mais à partir du manuscrit, les pages de Proust sur la visite du musée Condé de Chantilly, et le narrateur qui dis-tu bien de Poussin, madame, qui dit non, c'est les Poussins de Chantilly sont absolument affreux. Alors il dit, mais vous savez, Degas les trouve très très beaux. Ah mais non, sont ceux du Louvre, ils sont affreux. Mais vous savez, Degas et Monet les aiment aussi beaucoup. Nous l'avons reproduit sur le mur, dans la version du manuscrit, avec naturellement les ratures de Proust sur ces passages. Alors ça donne naturellement de l'exposition une note un peu plus, si j'ose dire, un peu plus souriante.
Laurent Lebon, il y a, vous le disiez, d'autres artistes qui vont poursuivre cette vie. Picasso, cette vision plutôt. Picasso, donc, vous avez été un petit peu elliptique. Il l'a vu, il l'a pas vu. Qu'est-ce qu'il a puisé? Lui, il avait une admiration extraordinaire, néanmoins, pour Poussin. C'était un artiste merveilleux. Il disait qu'il avait choisi le nom de Picasso plutôt que celui de Ruiz parce qu'il y avait deux S comme au nom de Poussin.
Oui, c'est une des belles anecdotes par rapport à Picasso. On est tous d'accord autour de cette table pour dire que très probablement il a vu le tableau. Et s'il ne l'a pas vu, en vrai, il l'a de toute façon vu en reproduction. C'est un amour. Vraiment, je crois que c'est un des artistes qu'il a le plus aimé. C'est vraiment au cœur de son travail. Mais je crois que ce qu'on voit dans l'exposition, c'est justement que d'autres artistes, que peut-être par des catégorisations un peu rapides, on aurait pu juger inférieurs, ça crée une harmonie autour de cette aventure. Et ce qui m'a frappé, une fois l'exposition accrochée, c'est de voir comment beaucoup des artistes se sont attaqués au chef-d'œuvre de Poussin par le fragment, par le détail. C'est-à-dire que chaque artiste a son morceau préféré du massacre. L'un, ça va être cet extraordinaire enfant réduit à ses formes géométriques, la sphère et le cylindre, qu'on redécouvre grâce à la magnifique restauration, parce qu'on l'a peut-être pas dit, le tableau a été restauré je crois vraiment resplendi comme jamais depuis sa dernière restauration des années 70, qui avait malheureusement souffert avec le temps. On a Jean-Michel Alberola qui va s'attaquer au ciel, qui lui va préférer le geste du glaive, la diagonale. On a Pierre Buraglio qui va préférer, comme Lupertz, le pied sur le bébé, l'enfant, ce terrible moment, l'innocent, un innocent, comme le rappelait Philippe tout à l'heure. Voilà, donc je crois que avec cela, on a une sorte de petit moment où on essaye de reconstituer dans l'imaginaire. Et au fond, je crois que vous m'avez fort justement tout à l'heure repris en disant que ce n'était pas une leçon. Mais c'est aussi un peu de plaisir. Mais voilà, on est là dans cette histoire pour ce petit voyage à Chantilly. Rappelons quand même à nos amis auditeurs et auditrices que c'est à 25 minutes en train. et saluons nos amis qui ne sont pas là, je me permets, à ce stade de l'émission. C'est toutes les équipes de Chantilly et Nicole Garnier, qui est la directrice, qui est l'âme de ce projet. Et pour ma part, j'ai travaillé avec Émilie Bouvard, qui a pas chômé pour justement créer ce contrepoint contemporain.
Dites-moi, je pense Alberola, puisque vous en parlez, j'ai trouvé très beau un entretien qu'il a fait à ce sujet-là. C'est dans lequel il dit la grande surprise, le grand contraste extraordinaire, c'est la présence de ce drame absolu dans lequel un enfant devient tous les martyrs, et pas seulement, en fait, il est seul parce qu'il est tous les autres, et pourtant, impassible, le ciel est bleu. C'est très extraordinaire comme remarque, hein, parce que c'est une des grandes surprises. On aurait pu imaginer, dans une peinture du XVIIIe siècle, que le ciel soit orageux, terrible, inquiétant, ou dans un Giorgione, peut-être même.
Enfin, personnellement, moi, j'espère que cette exposition ouvrira les yeux de nos compatriotes, et pas simplement de nos compatriotes, et que ça rendra plus facile ce musée Nicolas Poussin aux Andelys, qui est mon rêve.
C'est un de vos grands projets, je sais. Philippe Dagen, la partie contemporaine, vous trouvez que ce sillage est juste?
Je pense qu'il pourrait être... Enfin, c'est un sillage, comme vous l'avez dit. Et en mer, on peut en tracer de nombreux qui convergent ou qui divergent. Le sillage qui a été choisi est celui de la peinture, ce qui est un parti pris qui est parfaitement... Enfin, qui se justifie parfaitement. Je pense que nous savons tous ici que d'autres auraient pu aussi être suivis du côté de la photographie, du côté... Annette Messager est la seule qui sorte là du tableau. Je crois que le massacre des innocents, malheureusement, dans le contexte actuel, peut résonner dans toutes sortes de formes d'art, qu'elles soient sur une toile, sur un écran, sur une feuille de papier, en musique également, enfin dans l'ordre du sonore. C'est malheureusement le sujet central de notre époque. Donc, on n'y échappera pas.
Alors, revenons sur l'histoire de ce tableau. Vous avez expliqué, Pierre Rosenberg, dans quelles circonstances dramatiques il a été donc commandé. Et je voudrais que vous nous disiez un mot sur la façon dont il a été installé. Parce qu'au fond, si je ne me trompe, il était pas seul dans la salle où il se trouvait, qu'on appelle la salle des philosophes.
Oui, mais ça, c'est une grande discussion entre spécialistes.
Faites-la nous partager, parce qu'après tout, on deviendra spécialiste grâce à vous.
Non, c'est une salle des philosophes où étaient présentées plusieurs morts célèbres. La mort de Sénèque, la mort de Socrate, et on a voulu justement associer le tableau de Poussin à ces morts. Alors, moi, je trouve que la mort de Sénèque ou ces morts héroïques sont très différentes du tableau de Poussin, et cette salle des philosophes qui existe encore, c'est le bâtiment, le Palazzo Giustiniani, appartient à l'heure actuelle au Sénat de Rome. Et cette salle qui existe encore est évidemment une salle qui, à mon avis, a été artificiellement arrangée. Je crois que le tableau de Poussin s'y trouve un peu par hasard.
Vous ne pensez pas donc qu'il y a un lien?
Non, d'autant plus qu'à mon avis, le tableau de Poussin est bien antérieur des tableaux de philosophes dont nous parlions, qui sont dus à Perrier, qui sont dus à un artiste qui s'appelle Giusto Fiabingo.
Pourtant, ça a fait couler de l'encre et certains y ont vu stoïcisme, en quelque sorte.
Oui, mais vous savez que Poussin fait couler beaucoup d'encre. Et si le peintre est si difficile, c'est aussi le peintre sur lequel, peut-être le français, sur lequel on écrit le plus. Je ne sais pas si on écrit plus sur Cézanne que sur Poussin, mais en tout cas, moi qui...
Peut-être sur Duchamp.
Peut-être. Mais alors, pas dans la peinture.
En plus, il était devenu américain.
Ils sont tous les deux normands.
Et oui. En plus, voilà, les Andelys.
Donc, si vous faites le musée Poussin aux Andelys, vous serez quand même obligé de faire un musée Duchamp à Blainville.
Peut-être, mais ce ne sera pas moi qui le ferai. C'est pas moi. Mais en tout cas, oui. Donc, le tableau, à mon avis, a été conçu par Poussin. C'est un peu par le hasard qu'il est dans cette salle. Alors, il reste, comme vous le savez, au palais de Giustiniani, qu'on visitait très difficilement. Et les Giustiniani auraient bien voulu le vendre, mais ils n'en avaient pas le droit parce qu'il était, vincolato, comme on dit en italien, il n'avait pas le droit de le vendre. Il a fallu l'époque napoléonienne pour que ils puissent le vendre. Ils l'ont vendu à Lucien Bonaparte, dont vous verrez d'ailleurs à l'exposition un très beau dessin d'Ingres. Et Lucien Bonaparte l'a ensuite à son tour vendu, et le duc d'Aumale l'a acheté en 1854 à Londres, à un prix tout à fait raisonnable.
Le duc d'Aumale, qui était le cinquième fils de Louis-Philippe.
Voilà, et devenu très riche par la suite d'une succession de très très riches, et qui a constitué ce qui est un des plus... qui est sans doute, ça fait hurler beaucoup de gens, ou le deuxième ou le troisième musée français.
S'il y a une grève de train pour aller à Chantilly, oui, depuis Paris, oui, est-ce qu'on peut aller, pour s'en consoler, au Petit Palais, voir un autre poussin sur le même thème.
Mais il y est à Chantilly.
Donc il n'y a pas de alors quel est pourquoi il avait fait un premier quelle est son tableau. Histoire est-ce qu'il est il avant après
c'est un... il est avant il
et
est
c'est
avant.
Un vrai
c'est un vrai il est dans un état effroyable
vous nous en assurez
je vous le promets là d'ailleurs sur ce point il n'y a pas beaucoup de contestation
bon
il est accepté par tout le monde en dépit de son état et c'est assez amusant parce que c'est un tableau qui est un peu le contraire du tableau de Chantilly puisque c'est une sorte de photographie de marée c'est-à-dire c'est une succession de gestes du même personnage c'est comme les photographies de marée
je vois que vous êtes l'un et l'autre dans le proto-cinéma ou le début du cinéma.
Oui, parce qu'il y a quelques photos d'exposés à l'exposition, il y a quelques photos d'exposés, et notamment des photos qui nous ont donné un certain souci, des photographies d'Adami en présence de Derrida, qui sont en train de reconstituer le tableau. Alors nous avons essayé d'en savoir un peu plus, ça se passe au bord du lac de Côme, la maison d'Adami, on sait plus ou moins les années, je ne sais plus très bien, 60 ou quelque chose comme ça. Alors j'ai espéré que la reconstitution du tableau, on voit Derrida, on voit les enfants Derrida, les enfants Adami qui jouent les personnages, et j'avais espéré que c'était une reconstitution sérieuse. On a essayé d'en savoir plus sur...
Peut-être un jeu, tout simplement.
C'était un jeu.
Mais le jeu fait partie de l'art du XXe siècle, donc...
Je trouve que ce tableau-là se prête mal au jeu, malheureusement.
C'est vrai, c'est
malheureusement,
vrai.
Malheureusement. C'est vrai. Mais en tout cas, les photographies, nous en montrons une douzaine de ces photos. Parce que dans quelques-unes, elles sont inédites, ces photographies, sauf une qui est assez célèbre.
Ça résonne, Lebon. Oui, ça résonne en tout cas avec ce que rappelait Philippe tout à l'heure sur la théâtralité. C'est-à-dire que c'est peut-être un jeu, ce tableau vivant. Peut-être une sorte de diorama vivant, mais on a là vraiment.
Je me demande à quoi vous faites allusion.
Bon. Je ne sais plus. Mais on a là vraiment toute la théâtralité du tableau qu'a rappelé Philippe tout à l'heure.
Pour que nos auditeurs ne soient pas exclus de cette plaisanterie, vous avez fait récemment une très belle exposition sur les dioramas qui suivait votre très belle exposition sur les jardins, qui suivait votre très belle exposition, etc. Ah, depuis.
C'est une sorte de cycle testamentaire et je suis content de l'achever avec le Massacre des Innocents, ça me paraît parfait.
Pour en finir. Parlez-moi du charnier que vous avez, c'est quand même une œuvre extrêmement importante, que vous avez amenée dans l'exposition.
Que le MoMA nous a prêté. Je crois qu'il faut saluer d'ailleurs le MoMA sur tous les fronts en cette rentrée parisienne. Il va bien sûr triompher à la Fondation Louis Vuitton. J'imagine que vous en parlerez dans
nous
une prochaine émission.
Consacrée
voilà, mais je crois
que ça, oui.
On ne dit pas assez, Pierre l'a rappelé tout à l'heure, qu'on doit saluer entre amis d'institutions muséales la générosité de certains partenaires et le MoMA n'hésite pas à se dessaisir de ses chefs-d'œuvre et je crois que c'est tout à leur honneur que le charnier soit présent à Chantilly.
Vous pouvez nous raconter cette histoire parce que est-ce que ce tableau, le charnier, ne suivait pas la mort d'un innocent, c'est-à-dire d'un ami de Picasso?
Alors le charnier, d'abord, s'appelait pas forcément le charnier. Picasso l'appelait Mon Massacre. Il faut le rappeler, comme souvent, je parle sous l'autorité de Philippe, les titrologies chez Picasso, ça serait quelques émissions de l'art et la matière. Car là, on est vraiment dans un maquis. Entre les titres que Picasso a donnés et souvent le souhait qu'il n'en avait pas et ainsi de suite, mais quand il parlait du tableau, en tout cas Pierre Dex le rappelle, il dit « Mon massacre ». Voilà, donc là je crois qu'on y était vraiment. Après, je crois que sans faire du en même tempisme, Philippe nous l'a rappelé là encore tout à l'heure, je crois qu'il faut pas chercher à choisir telle ou telle interprétation, telle ou telle source. Je crois qu'en revanche, clairement, il y a une sorte de moment 37-45, c'est-à-dire tableau, le charnier, vient en écho de Guernica, 8 ans s'écoulent, et je pense que la jeunesse de l'un, évidemment, est à chercher dans le chef-d'œuvre conservé désormais à Madrid. Je crois que chez Picasso, il y a toujours cette idée du cycle en permanence à revenir, et finalement, on parle souvent d'inachevé, mais... pour dire d'ailleurs que ce tableau aurait suscité moins d'intérêt. Il a suscité moins d'intérêt chez les communistes, qui n'ont tout de suite pas compris ce tableau.
Vous pouvez nous le décrire, qu'on comprenne de quoi il s'agit?
Alors, c'est un tableau qui a une composition de trois personnages quasi entrelacés, enchevêtrés. Une famille, on dit, un enfant, une femme qui crie, est-ce un hasard, un homme. Et puis, ce qui est le plus fascinant, je crois, dans ce tableau, c'est le contrepoint avec... sur la partie supérieure gauche, une nature morte, avec une casserole, évidemment, évocation de toutes ces magiques natures mortes de la guerre, la casserole émaillée que Picasso va donner en 1947 au centre Pompidou de l'époque, qu'on appelait Musée national d'art moderne, puisque Picasso va compenser par là l'absence totale quasi de ses œuvres des collections publiques nationales. Et certains disent que peut-être il aurait pu donner le charnier, mais justement, il a préféré donner la casserole émaillée. Dommage pour la France, qui laissera d'ailleurs partir le tableau, comme d'autres, en 54, puisque c'est acheté par un collectionneur américain avant de finir au MoMA en 1971. Voilà. Alors, le tableau a aussi un élément très particulier spatialement, une porte ouverte sur la gauche. C'est un peu peut-être l'inverse en termes d'espace scénique, je me permets d'utiliser cette métaphore théâtrale, que le massacre des innocents de Poussin.
C'est une fille d'âge, hein. C'est une scène d'intérieur. Sur la casserole, vous avez raison. Si ce n'est que ça la précise tout de même un élément narratif et symbolique à la fois, c'est que ce sont des victimes civiles. C'est une famille qui a été massacrée, probablement. C'est plus Oradour que les camps, hein, véritablement. C'est le massacre des civils. On peut imaginer toutes sortes d'interprétations, mais enfin, dans la France de 1944-1945, elles sont assez flagrantes. Et je pense que ce fait de ces gens qui ne sont pas des combattants, le père lui-même n'est à aucun moment désigné par un accessoire quelconque comme un combattant. Ce sont des gens qui se trouvaient là et qui ont été exécutés. Bon, et ça correspond à Guernica, ça correspond à beaucoup de photos de la guerre d'Espagne, y compris de mères et d'enfants, faites par Gerda Taro, faites par Capa et d'autres. Et donc, tout cela se rejoint. Mais je pense que l'idée que la soldatesque vienne infliger une sorte de carnage à des gens qui sont tout à fait extérieurs à cette histoire, c'est au fond peut-être l'une des meilleures raisons que vous ayez eues de mettre le charnier, plutôt que Guernica, par exemple, en dehors du fait que Guernica ne voyage pas, dans l'exposition. Parce que là, en effet, on est exactement dans la même situation. Et on est d'ailleurs, dans les deux cas, face à un tout petit nombre de personnages. Alors que Guernica, il y a quand même le cheval, le taureau, bon, ça se déploie. Ici, on est dans une espèce de concentration qui, me semble-t-il, est plus poussinesque, c'est peut-être l'un des tableaux de Picasso les plus poussinesques, non pas dans sa peinture, mais dans sa structure.
Vous êtes d'accord avec ça, Pierre Rosanvert?
Oui, tout à fait. Je me félicite de la participation, plus que la très importante participation de Laurent Lebon à l'exposition. Je trouve que c'est la voie à suivre, d'essayer de faire des expositions qui aident à comprendre les tableaux anciens grâce à un tableau moderne et vice-versa.
Donc Picasso a aimé Poussin. Ah, Poussin aime-t-il Picasso?
Poussin aime-t-il Picasso? Il aime pas beaucoup de peintres, Poussin. Il est très fier de lui-même. À l'exposition, vous verrez l'autoportrait dont je vous rappelle que Malraux disait qu'il ressemblait au général de Gaulle.
Qui est un tableau de toute beauté, et à des chefs-d'œuvre du Louvre.
C'est un tableau extraordinaire.
Et d'une complexité extraordinaire,
lui
aussi.
C'est l'image de la France au XVIIe. Enfin, c'est l'image de ce pays qui devient la première puissance européenne et qui la devient aussi bien intellectuellement que militairement. Il la résume. On avait voulu à un certain moment emprunter la version de Berlin, l'autoportrait de Berlin.
Vous dites que Poussin est un artiste français et vous dites que c'est l'image de la France. Est-ce que lui ne pensait pas être un artiste italien à l'époque?
Non, si vous voulez, la querelle, là encore, il y a eu plusieurs querelles. Et celle-là, elle est close, si vous voulez, la querelle de la nationalité de Poussin.
Pardon de mon retard.
Non, elle est close, et je veux dire que l'exposition vient la clore encore plus, dans la mesure où personne ne dirait que Picasso est un peintre français. Picasso est un peintre espagnol. Il n'y a pas de doute sur ce point, enfin je ne sais pas.
Picasso est un peintre.
Picasso espagnol.
Non. Alors là, on ne va pas entrer dans une... Il a suffisamment souffert des espagnolismes que l'on a voulu, que la critique française, y compris certains de vos prédécesseurs, ont voulu lui coller sur le dos dans les années 30 et les années 40 pour que aujourd'hui, à mon sens...
Nous savons bien que la peinture française, c'est Picasso, Miro, Dali, Ernst. Et que la peinture américaine, c'est Marcel Duchamp et quelques autres. Donc tout ça...
Et, et le Hollandais de Koenig.
Et moi, je trouve, si vous voulez, que Picasso est un peintre espagnol, je continue de le penser, et que Poussin est un peintre français. Et vous voyez, c'était un peu... C'est ça que je voudrais dire par la... Et lui-même, d'ailleurs...
L'intelligence de cette exposition.
Dans sa correspondance, c'est très net. Il est très au courant de ce qui se passe en France, des événements politiques, et il les suit de très près.
Alors, il est peintre du roi, non, à un moment donné?
Au moment de sa mort, on a voulu le faire le premier peintre du roi. Enfin bon, ça s'est très mal passé quand il est venu à Paris en 1640. Il était très malheureux à Paris.
1640.
Oui, oui.
Vous avez dit 1940.
J'ai dit 1940.
Il était encore plus malheureux.
ce qui nous ramène à Picasso, bien puisque sûr. C'est l'année où on lui refuse la nationalité française.
Oui. Qui l'aura en 60.
Oui. Qu'il n'aura pas.
Après, il n'en a pas voulu.
Ah oui.
Ça rejoint le débat qu'on vient d'avoir.
C'est légitime.
Mais par contre, je trouve, alors est-ce que ça, c'est quelque chose qui ne veut rien dire? Peut-être. C'est une exposition extrêmement française. Non pas par le choix des artistes, mais par l'articulation mentale dans laquelle elle se construit. Est-ce que vous pensez qu'on peut dire une chose semblable?
En tout cas, c'est une exposition qu'on ne peut pas voir ailleurs qu'à Chantilly, ça c'est sûr. Et je crois aussi que c'est une exposition qui se veut tout simplement à chapitre. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit un mot de la scénographie, mais Laurence Fontaine nous a fait une très belle proposition, beaucoup de jeux de cadrage, beaucoup de jeux de perspective.
C'est une très bonne architecte, il faut dire.
Et je crois que Pierre a pris beaucoup de plaisir à butiner dans ce jeu géométrique.
Mais je voudrais dire une chose, c'est que les expositions, c'est banal de le dire, mais il faut le répéter, n'ont de sens que si elles survivent par leur catalogue. Et en l'occurrence, ce catalogue, à mon avis, est un vrai catalogue, avec un très bon essai, par exemple. Il y a de très bons interviews des artistes que vous venez de citer. Il y a un très bel essai sur le thème lui-même du massacre des innocents, son origine. Donc il y a des textes qui feront que le catalogue, on s'en servira pour longtemps. Et je trouve qu'il y a aujourd'hui un peu trop d'expositions où le catalogue...
Il y a un très bon article sur l'origine, ce qu'a pu voir ou Poussin, donc à l'époque de ce tableau, ce à quoi il se mesurait Et vous parliez de Guido Reni, qui est un tableau quand même magnifique, extrêmement construit, avec une construction en X admirable, et qui a déjà une grande simplicité, presque poussinesque.
C'est vrai. Bien que la grande admiration de Poussin à Rome, la grande surprise de ses contemporains, ça n'a pas été Guido Reni, c'était Dominicain. L'homme qu'il admirait, c'était Dominicain.
Paraît-il, était un intellectuel, lui aussi, de très très grande valeur, et c'est peut-être plus un échange de pensée qu'un échange de forme.
Mais en vérité, ses contemporains, il les a bien sûr admirés, mais du bout des lèvres. Sa seule véritable admiration, sa grande admiration, en dehors de l'Antiquité, c'est Raphaël. Il s'est voulu le Raphaël français.
Et Raphaël a peint un massacre des innocents?
Raphaël n'a pas peint un massacre des innocents, mais il a dessiné un massacre des innocents qui a été gravé par Marc-Antonio Raimondi, une gravure archi-populaire, archi-célèbre, que Poussin connaissait incontestablement et que nous exposons naturellement.
Et Poussin avait beaucoup préparé son tableau? Il y a eu des dessins?
On ne connaît qu'un seul dessin.
Un seul
dessin qui a ceci d'intéressant, c'est que le geste dont nous avons tous les trois parlé, le fameux geste du guerrier avec son épée, et lui, en un premier temps, Poussin, je veux dire, n'avait pas prévu ce geste, il avait prévu au contraire le même soldat, bien sûr, avec une dague à la main, en train de poignarder l'enfant. Et puis il a renoncé à cette dague pour le geste de l'épée. Et le dessin est à Lille, il est exposé naturellement.
Vous connaissez aussi donc le tableau du Petit Palais, Philippe d'Agen. Je n'ai pas très bien compris si c'est un tableau antérieur ou postérieur.
Antérieur. Enfin, je ne suis pas le mieux placé ici, vous parlez de tout ça, c'est un tableau antérieur.
Vous ne les trouvez pas comparables en qualité?
Oh, écoutez, franchement, je veux bien rendre hommage à Poussin. Mais enfin, là, non. Il y en a un qui, me semble-t-il, sans formule malheureuse, écrase l'autre terriblement. Et puis l'intelligence de la construction, l'intelligence de la simplification de la construction, elle est à l'œuvre dans le deuxième et elle ne l'est pas dans le premier. Mais bon, ça n'enlève rien, ça n'affecte pas la gloire de Poussin.
Une autre question, Pierre Rosenberg insiste à juste titre sur le caractère humaniste ou laïque en tout cas de ce tableau. Néanmoins, cet enfant sur ce linge, les bras en croix, est une préfiguration du Christ. Est-ce qu'on peut ne pas le ressentir ?
Oui, mais on pourrait vous dire que, puisqu'on parlait de Picasso tout à l'heure, Picasso a passé son temps à prendre des sujets qui étaient des sujets explicitement chrétiens et à les tirer du côté, en effet, d'un sens moral. Quand il dessine d'après Grunewald, d'après le Christ d'Isenheim, il dessine une sorte de souffrance générale, de souffrance universelle. Et dans le cas du charnier, comme dans celui du massacre des innocents, ils peignent tous les deux une souffrance universelle. Donc, vous avez employé le mot laïque tout à l'heure, je comprends bien dans quel sens, et je pense que c'est en effet plutôt vers une sorte de redéfinition éthique du sens du tableau que vers une interprétation qui serait trop strictement attachée à la lettre. D'ailleurs, en effet, cela a été dit aussi, la lettre biblique n'est absolument pas respectée par Poussin. Et il faut quand même dire aussi qu'il prend par rapport à la lettre des Écritures une liberté que ses prédécesseurs n'avaient probablement pas osé prendre.
Mais je crois tout simplement que si tous ces peintres se passionnent pour Poussin, c'est qu'ils ont bien compris que chez Poussin, il y avait une réussite de peintre que tout peintre veut à son tour. Et c'est ça, en fait. Ces peintres actuels, Picasso inclus, au fond, Picasso, bien sûr, l'a prouvé, comment arriver à raconter une histoire avec ses pinceaux et à la rendre si universelle avec ses pinceaux? Comment remplacer les mots dont nous parlons ici un peu tous, que nous utilisons ici. Et c'est ça, à mon avis, qui passionne les peintres. Cette manière que Picasso a eue, naturellement aussi, mais que Poussin avait eue avant lui, cette manière de raconter une histoire avec ses pinceaux, de la rendre humaine, de la rendre touchante, d'oublier la religion, d'oublier la mythologie, d'oublier la poésie, parce que ce que nous n'avons pas dit, c'est que à l'époque du tableau de Poussin, le plus grand poète italien de l'époque qui vivait à Paris, le Cavaliere Marino, Chevalier Marin, écrit un livre qui a eu un énorme succès, bien que paru posthume, de manière posthume, qui s'appelait La Strage degli Innocenti. Et Poussin.
Ce qui veut dire quoi?
Le massacre des innocents. Absolument, merci. Et c'est un poème qui a eu un énorme succès. Je vous rappelle que le Cavalier Marin est un des découvreurs de Poussin, et on lui doit cette phrase célèbre, Monsieur Poussin a una furia di diavolo. Je ne sais pas comment vous allez le traduire.
Fureur diabolique, voilà. De diable, non?
Oui, c'est ça. Quelque chose comme ça. Il découvre Poussin à Paris, et il découvre ce grand génie qu'il a été. Il a été un de ceux qui a compris Poussin, et il a été, à mon avis, plus que cela, il a été un de ceux qui a cultivé le monde est malvenu, qui lui a donné le goût des lettres, qui lui a ouvert les yeux, parce que l'origine sociale de Poussin est modeste, et il est devenu un peintre qui lisait, lisait en latin. Et ça, je crois que le Cavalier Marin, et j'aurais tort de ne pas mentionner la Strage degli Innocenti, le massacre des innocents, a joué un rôle capital.
Laurent Lebon, c'est passionnant de vous entendre les uns et les autres parler avec une belle érudition et incroyablement vivante et incarnée effectivement dans le présent et au présent. Vous vivez ces tableaux aujourd'hui.
Vive la peinture.
C'est ce qui nous fait vivre.
Voilà. Merci de terminer sur ce vive la peinture et sur cette idée de la vie. Laurent Lebon, Pierre Rosimbert, Philippe Dagen, merci infiniment.
Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
C'était L'art et la matière, une émission de Jean Deloisy avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, nous avons reçu Pierre Rosimbert, Laurent Lebon et Philippe Dagen à propos de l'exposition au domaine de Chantilly, Poussin, le massacre des innocents, du 3 octobre au 7 janvier 2018. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. Lecture des textes, La belle voix de Lara Brulle. Attaché d'émission, Sylvia Favre. Prise de son, Jean-Michel Bernaud. Réalisation, Franck Lilin. La semaine prochaine, à l'occasion de la sortie du livre Gabriel aux éditions Stock, une émission sur Gabriel Buffet-Picabia avec Bernard Marcadet et Jean-Jacques Lebel. À 15h30, vous retrouverez Joël Gaillot et sa soirée au théâtre. Et dans quelques instants, Personnage en personne de Charles Danzig. Bon après-midi sur France Culture.